Bonjour à tous. Effectivement, le passage est long, j'ai pris ma gourde. Peut-être j'aurais besoin de faire une pause. Mon grand-père paternel s'appelle Marcel. Il vit à Montpellier et c'est un ancien policier. Et quand je vais chez lui, dans la chambre où je dors, il y a une bibliothèque à côté du lit. Et sur cette bibliothèque, il y a des livres qui sont assez fins et il y a un gros livre. Et le gros livre tient tous les autres livres. J'ai lu plusieurs fois tous les petits livres qu'il y a sur la gauche. J'ai jamais lu le gros livre. En fait, tous les petits livres, ce sont des BD. Des Mafalda, je ne sais pas si c'est une BD espagnole, Calvin et Hobbes, Les Tuniques Bleues. Et ce gros livre rouge, il y a trois mots dessus. Code civil d'Alloz. Je l'ai ouvert une fois, je l'ai vite refermé. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe ce matin. On arrive à une section du livre de l'Exode qui ressemble à ce gros livre rouge. Et certains préfèrent recommencer au début et lire tous les petits livres qu'il y a avant, ou glisser sur les pages comme ça, et arriver directement aux livres qui sont après, ou aux sections qui sont après. C'est normal. C'est une section qui est difficile. Difficile à comprendre. Difficile aussi de voir le rapport entre ce qui était dit à l'époque, toutes ces lois qui nous semblent parfois obscures, parfois rigolotes, et notre vie aujourd'hui. Et si vous regardez les films sur la vie de Moïse ou sur les 10 commandements, le film s'arrête aux 10 commandements et on croit que ça s'arrête ici. Mais en fait non, l'histoire continue et c'est l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de voir avec vous 3 chapitres ce matin. On va pas tout lire, on va les survoler. Ce que j'aimerais faire, c'est dans chaque section voir peut-être une ou deux choses qui caractérisent cette partie-là, de voir ce que ça reflète du cœur de Dieu et de voir aussi comment nous on peut se l'approprier aujourd'hui. On a eu les 10 commandements la dernière fois, assez connus, 10 paroles que Dieu donne, une loi morale que Dieu donne en 2 parties qui traitent les relations avec Dieu et les relations avec nos semblables. Et en fait, cette loi, ces 10 commandements, cette loi morale, on pourrait la résumer par aimer Dieu et aimer notre prochain. Aimer Dieu, aimer notre prochain, ça résume la loi. Et la section qu'on va aborder aujourd'hui, qui commence au verset 22 du chapitre 20 et s'arrête au verset 19 du chapitre 23, s'appelle le livre de l'Alliance. Alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Moïse au chapitre 24 qui l'appelle le livre de l'Alliance. Et dans ce livre de l'Alliance, on a des lois civiles, des lois qui régulent la vie du peuple, et en fait qui sont juste des applications des 10 commandements. En gros, ce qu'on va voir ce matin, c'est comment le peuple doit vivre dans le pays que Dieu va leur donner en rapport au commandement qu'il leur a donné dans les 10 commandements. Et on voit une différence avec les 10 commandements. Les 10 commandements, ils ont été écrits par le doigt de Dieu, nous dit la Bible, sur des tables de pierre, alors que le livre de l'Alliance est écrit par la main de Moïse sur des parchemins. Et donc on voit une différence déjà entre les 10 commandements et ce livre de l'Alliance qu'on va voir ce matin. Et ce livre de l'Alliance, il nous enseigne, en tout cas, il enseignait au peuple, à cette époque-là, comment vivre pour Dieu jour après jour. Et c'est étonnant de voir que on est au chapitre 19, il y a quelques semaines, on est au pied de la montagne, Dieu se révèle dans un nuage fumant, toute la montagne tremble, le sol tremble, le peuple tremble, on a des éclairs, des tonnerres, la voix de Dieu. Et le peuple est en bas, pris à la fois d'effroi, de crainte, mais aussi se rendre compte de la grandiosité et la grandeur de Dieu. Mais on voit que le peuple ne reste pas au pied de la montagne et que bientôt la vie va reprendre. Et que parfois, obéir à Dieu dans la vie, c'est compliqué parce que la vie est compliquée. Et c'est un peu comme nous, le matin, le dimanche matin, après il y a le lundi. Il y a ce qu'on dit le dimanche matin et il y a ce qu'on vit le lundi matin. Des fois, c'est plus ou moins pareil. Mais souvent, c'est beaucoup plus compliqué le lundi matin que le dimanche matin. Et on va voir plusieurs parties, plusieurs lois. On va voir que le but, c'est pas de couvrir toutes les situations. On va voir que Dieu parle de situations diverses et qui prend en compte la vie tordue, compliquée que nous pouvons vivre. Mais en aucun cas, tout ce qu'on va voir est censé couvrir tous les cas de figure. C'est plutôt des poteaux indicateurs qui vont aider ceux qui devaient guider le peuple à savoir, d'accord, Dieu nous a dit ça, dans cette situation, on est plutôt dans ce cas-là, et on va appliquer la loi, un peu comme aujourd'hui, on se base sur les codes de loi, sur le code civil, et ensuite, c'est au juge de décider par rapport aux éléments qu'il a, la peine qu'il va donner. Petit rappel avant de commencer sur la visée de la loi. Le but de la loi. Le but de la loi n'a jamais été de sauver le peuple. Personne n'a jamais été sauvé par l'observance de la loi. Pour rappel, la loi est donnée après la délivrance. Et ça, c'est une idée qui revient souvent dans l'Exode. D'abord la délivrance, ensuite l'obéissance. Et si on relit, je vous invite à le relire peut-être, si ça vous intéresse, les chapitres 2, 3 et 4 de Romains, en 2 et 3, Paul nous dit que personne n'est sauvé par la loi. Au chapitre 4, il nous montre que Abraham, c'est pas la loi qui l'a sauvé puisqu'il est arrivé avant la loi. Personne n'a jamais été sauvé par la loi. Et on a vu avec Jean-Jacques la dernière fois qu'un des buts, c'était de vivre libre et heureux dans le pays que Dieu allait donner au peuple. Vivre libre et heureux. Et le deuxième but, c'est de vivre comme un témoin pour les autres nations. Vous vous rappelez peut-être au chapitre 19, Dieu dit au peuple, « Je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Vous serez pour moi une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. » Pour être les témoins auprès des autres nations. Et on avait vu que cette partie-là, elle est reprise dans le Nouveau Testament par Pierre, qui parle aux chrétiens et qui dit la même chose. Il dit aux chrétiens, vous êtes un peuple de sacrificateurs, vous êtes comme des prêtres, vous représentez Dieu auprès du monde. Et votre vie d'obéissance à Dieu doit être un témoignage pour tous ceux qui vous entourent. Donc ça, c'est aussi un des buts, c'est de témoigner de la grandeur et de la grâce de Dieu à tous ceux qui entouraient le peuple. Une des choses que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que obéir à la parole de Dieu, c'est refléter le caractère de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est refléter le caractère de Dieu. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez les ouvrir au chapitre 20 du livre de l'Exode, à partir du verset 22. Parfois, je vais juste donner les références. C'est important d'avoir peut-être la Bible sous les yeux. Je ne vais pas citer tout le temps le texte parce qu'il y a 90 versets. Mais voilà, comme ça, vous pourrez y faire référence et voir de quoi je parle. La première partie, c'est une partie qui concerne le culte. Merci. On voit au verset 1er du chapitre 21, « Voici les lois, ou alors voici les règles que tu leur présenteras. » Mais avant de donner des règles, Dieu va parler de quelques ordonnances, de quelques instructions pour le culte. C'est la fin du chapitre 20. Et ça nous rappelle quelque chose. Avant de donner les règles, Dieu nous rappelle le moyen de l'adorer. Encore une fois, on voit la délivrance, l'obéissance. Et on voit que l'obéissance se place toujours dans le cadre de l'adoration. C'est parce qu'on a déjà une relation avec Dieu qu'on lui obéit. C'est pas parce qu'on lui obéit qu'on a une relation avec lui. Et on voit avec ce livre de l'Exode encore et encore que quand Dieu se révèle, la réponse qu'il attend, c'est l'adoration et l'obéissance. Et quand Dieu, par l'entremise de Moïse, demande au Pharaon de libérer son peuple, il lui demande de le libérer pour qu'il aille le servir. Et dans l'Exode, on voit que le peuple est sauvé pour servir Dieu. Il passe d'une servitude avec un maître mauvais, le Pharaon, au service joyeux d'un bon maître qui prend soin d'eux. Et on voit que cette liberté, cette libération, cette sortie d'Égypte, elle n'est pas là pour faire tout ce que le peuple veut. La liberté, c'est jamais faire ce qu'on veut dans la Bible. C'est être capable de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire ce que Dieu veut. La liberté dans la Bible, c'est toujours la liberté de faire ce que Dieu veut. Et on voit avec ce peuple que quand Dieu nous libère, on vit plus pour nous, mais on vit pour Dieu. Et au verset 23 du chapitre 20, Dieu interdit au peuple de faire des idoles et nous rappelle le principe du premier commandement. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi devant votre face. Et il dit à la fois ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire. Il leur interdit de faire comme les peuples environnants, de construire des beaux autels qui pourraient attirer l'attention sur eux ou sur les artisans qui l'ont construit. Il leur interdit aussi d'avoir un habillement qui pourrait être désinvolte. Il leur dit de couvrir leur nudité. Peut-être que le culte des nations environnantes de Canaan nécessitait quelques nudités ou quelques trucs bizarres. Et Dieu dit, je veux pas ça. Et c'est Dieu qui détermine ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et on voit un principe qu'on a déjà vu, c'est Dieu qui détermine notre façon de l'adorer. Ici, il parle de simplicité, de pureté, et il dit au peuple, en fait, votre façon de m'adorer ne devrait pas ressembler aux façons d'adorer les idoles des autres peuples. Vous ne devez pas leur ressembler dans votre façon de m'adorer. Et ce principe-là n'a pas changé aujourd'hui. Ce qui doit déterminer notre façon d'adorer Dieu, que ce soit le dimanche matin, que ce soit chaque jour de la semaine, ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que nous pensons être le mieux, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et il nous dit ici, attention, que votre façon de m'adorer ne ressemble pas à la façon d'adorer ou à la façon de faire de la culture mauvaise qui vous entoure. Nous voulons nous conformer à ce que Dieu dit et pas à ce que les autres font. On voit aussi que Dieu instaure des sacrifices. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit que Dieu instaure des sacrifices. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, si vous le prenez souvent. Tout au début, il y a quelque chose en fait qu'on ne remarque pas parce qu'on ne regarde plus ça. Mais il y a une dame au milieu de la rangée qui fait des gestes avec un gilet, avec un sifflet. En fait, elle nous montre les instructions en cas de problème. Peut-être qu'inconsciemment, on n'a pas envie de regarder parce qu'on se dit qu'il peut y avoir un problème. Et en fait, on se dit, en fait, ça sert à quoi ces instructions si on a un problème alors qu'on est là-haut? Le gilet, c'est sympa, mais quand on sera arrivé en bas, on n'en aura plus besoin. Et dans l'avion, on a ces instructions et ça nous rappelle, il y a quelque chose qui peut mal se passer. Alors, pour certains, pour moi, c'est souvent un rappel à la confiance en Dieu. Un rappel que peut-être je ferais mieux de prier, et un rappel que dans tous les cas, c'est Dieu qui prend soin de moi. et que je ne peux pas contrôler ma vie. Mais dans l'avion, le coup du gilet, ça nous dit quelque chose peut mal se passer. Ici, Dieu il leur dit, ça va mal se passer. C'est sûr, vous n'allez pas y arriver. Vous êtes pécheurs. Mais moi, je mets quelque chose en place avant de donner mes règles pour que vous puissiez avoir une relation avec moi. Dieu met en place un système qui permet aux pécheurs de vivre devant sa face. Et quand ils regardaient l'autel, le peuple se rappelait à la fois de leur péché, du besoin du sacrifice, mais aussi de la grâce de Dieu. Et nous, aujourd'hui, quand on regarde la croix, on se rappelle qu'on est pécheur. Mais on se rappelle aussi qu'on est pardonné. Et on se rappelle de la grâce de Dieu. Deuxième partie, sur les serviteurs ou sur les esclaves, à partir du verset 1 du chapitre 21. Ça commence, si tu achètes un esclave hébreu, c'est troublant pour nous, quand on pense à l'esclavage, on pense au commerce triangulaire, à la vente des esclaves, et ça nous choque. Et c'est normal d'être choqué par l'esclavage. Mais il faut faire attention de ne pas faire d'anachronisme entre l'esclavage dont il est question ici, et l'esclavage que nous on connaît et qu'on apprend à l'école. Cette partie honteuse de notre histoire qui montre la profondeur du péché humain. Ici, ce qu'on voit, au verset 2, « Il servira 6 années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. » L'esclavage avait des limites, déjà dans le temps. Ça ne durait pas toute la vie. Après 6 ans de travail, la septième année, l'esclave pouvait, s'il le voulait, sortir libre. Et on va le voir dans la suite du texte, l'esclavage était surtout un esclavage économique. Quand quelqu'un ne pouvait plus payer ses dettes, quand quelqu'un ne pouvait plus vivre, alors il servait quelqu'un d'autre et il allait vivre dans sa maison. Là, quand on parle de maison ou de famille dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus large que la famille nucléaire. Et souvent on parle des parents, des enfants, des grands-parents, mais aussi des serviteurs, des servantes, ceux qui ne pouvaient plus vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes, plutôt, et qui allait servir d'autres, parce qu'il leur donnerait un logement, de la nourriture et la protection. Donc on voit que c'est une situation économique. On voit aussi que la servitude, l'esclavage, était volontaire. Il était interdit, et on le voit au verset 16. Verset 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Vendre un autre homme, vendre un autre être humain pour le réduire en esclavage est puni de mort. Ce seul verset-là devrait nous montrer que la Bible s'oppose à l'esclavage tel que nous le connaissons quand on parle du commerce triangulaire. La Bible ne commande pas l'esclavage, la Bible ne l'interdit pas, mais Dieu sait comment se passe la vie dans un monde tordu, et c'est que certains devront eux-mêmes être serviteurs d'autres, peut-être pour une mauvaise gestion des ressources qu'ils ont, peut-être pour une dette qu'ils n'arrivent pas à payer. Ou peut-être, comme on le verra tout à l'heure, parce qu'ils ont commis un vol et qu'ils ne sont pas en mesure de le rembourser. Et la solution, c'était d'être esclave. Et on voit que le but de la loi ici, c'est de mettre des limites au péché. C'était de restreindre le péché et c'était d'éliminer les abus qu'il pourrait y avoir entre les maîtres et les esclaves. Les maîtres qui facilement pourraient profiter de cette relation où les esclaves étaient dépendants d'eux. Et dans cette situation, la loi est là pour dire « Vous ne faites pas ce que vous voulez, ni les esclaves, ni les maîtres. » Et on voit aussi un principe très important qu'on retrouvera dans toute la Bible et dans le passage, c'est que la vie de l'esclave vaut autant que celle du maître. Verset 20. Si le maître frappe, alors le mot c'est plus que frapper, hein. C'est un coup qui donne la mort. Un esclave et qu'il meurt, celui-là sera vengé. Sous-entendu, celui qui tue un esclave doit mourir. Parce que la vie de l'esclave vaut autant que la vie de n'importe qui d'autre. C'est un principe qu'on a déjà jusqu'en Moïse sort de l'arche, en Genèse 9. Il dit, celui qui tue un homme, sa vie lui sera redemandée. Pourquoi ? Parce qu'il a tué quelqu'un qui a l'image de Dieu. Et on voit que dans la Bible, la valeur des hommes ne dépend pas de leur classe sociale, de leur fonction, mais la vie de l'homme ne dépend que du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et personne n'a plus de valeur qu'un autre. Personne n'a moins de valeur qu'un autre. Et la loi de Dieu met une emphase particulière pour rappeler encore et encore ce principe. Et on voit la justice de Dieu où même les serviteurs, même les esclaves ont des droits, ce qui était insensé dans les règlements et dans la vie de l'époque. Les esclaves avaient aucun droit. Les esclaves étaient traités comme une propriété. Et on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a encore un rapport de maître à esclave ou de maître à serviteur, notamment dans ce qu'on appelle les tables domestiques. Vous savez, c'est ces règlements qui disent les obligations, et les devoirs et les droits des époux envers des épouses, les épouses envers les époux, les parents, les enfants et les maîtres et les serviteurs. Et Paul, dans la lettre aux Colossiens et aux Éphésiens, il appelle les esclaves à travailler pour leur maître comme s'ils travaillaient pour le Seigneur. Et aux maîtres à traiter leurs esclaves en sachant qu'au-dessus d'eux, il y a aussi un maître. Donc à la fois, l'attitude de l'esclave et du maître sont tous les deux liés au regard de Dieu. Et la loi nous rappelle ça sans cesse, nous vivons au regard de Dieu. Et c'est lui qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. On a la même chose quand on est employé ou quand on est patron. L'un devrait chercher le bien de l'autre. L'employé devrait chercher le bien du patron comme s'il travaillait pour Dieu. Le patron devrait traiter son employé comme, parce qu'il, lui aussi, il a un maître dans le ciel. Et on voit aussi que le message de l'évangile transforme radicalement nos relations. Quel que soit votre statut, quelle que soit votre fonction, quand vous reprenez le travail le dimanche, ou que vous n'ayez pas de travail, que vous soyez le patron d'une multimillionnaire d'une entreprise, que vous soyez le dernier des employés à la chaîne chez Peugeot, devant Dieu, l'un ne vaut pas plus que l'autre, et devant Dieu, en Christ, nous sommes tous frères. Et quand Paul écrit à Philémon, à propos de son esclave Onésime qui s'est échappé, il lui demande de l'accueillir au nom de Jésus, au nom de l'Évangile, comme son frère. L'Évangile transforme nos relations. Et dans le monde, on va regarder les autres en fonction de leur position, en fonction de leur salaire, en fonction de leurs habits ou de leur voiture. Mais quand on est ici, et même quand on est dehors, nos frères sont nos frères et les hommes sont des hommes. Troisième partie. Les coups et blessures à partir du verset 12. Dans cette partie, on voit une gradation des sanctions. On parle d'abord de péchés qui méritent la mort. Et ensuite, on va parler de dédommagement. Verset 12, on voit, 12 à 14, celui qui tue un homme mérite la mort. Et là, on a une application directe du sixième commandement, tu ne tueras point. Celui qui tue un homme mérite la mort. Verset 15 et 17, celui qui frappe, frapper c'est un mot un peu faible. L'idée qu'il y a derrière c'est plutôt tabasser. Celui qui tabasse ou qui maudit, encore une fois, maudire c'est pas quand on répond à ses parents. C'est que publiquement on les désavoue et devant Dieu et devant les autorités, on les renie, on les traite comme moins que rien. Celui qui fait ça mérite la mort. Une application du cinquième commandement. Alors, on voit que c'est pas juste celui qui frappe, parce que sinon, en fait, le peuple se serait éteint assez vite. Sûrement que les enfants qui lisent ça sont contents que les peines ne soient plus les mêmes aujourd'hui. Et on voit au verset 18 et 19 qu'on passe à une autre catégorie. Celui qui frappe un homme mais qui ne meurt pas, il doit payer ses frais médicaux. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, il le fera soigner jusqu'à sa guérison. En gros, il doit lui payer ses RTT et il doit rembourser sa feuille de soins. C'était beaucoup moins compliqué que maintenant. C'est directement celui qui était en tort qui s'arrangeait avec celui qui l'avait frappé. Verset 22, on a le cas d'une querelle où deux hommes, en se querellant, heurtent une femme enceinte. Ils la font accoucher. S'il n'y a pas d'accident, ils payent une amende. S'il y a un accident, sous-entendu, si le bébé meurt, ou si la femme meurt, alors ils paieront vie pour vie. On voit que ici que la Bible considère l'avortement comme un meurtre. Et de la même manière qu'un esclave n'est pas un meuble, un fœtus, un bébé n'est pas juste un amas de cellules. La vie d'un fœtus vaut la vie d'un humain. Celui qui tue un fœtus encourt la même peine que celui qui tue un homme. Verset 33. Alors, verset 28, on a quelque chose d'assez étonnant. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme, une femme... Non, c'est pas celui-là. Enfin, c'est étonnant aussi, hein, mais... Ah ouais, voilà, verset 35. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et ensuite, il y a la mort. Et j'ai appris, pour la petite anecdote, cette semaine, une sœur suisse me disait qu'aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous sont au courant, s'ils sont suisses, il y a un vote en Suisse. C'est ça, c'est vrai, Hilda ? Il y a un vote en Suisse pour savoir si les Suisses veulent subventionner les bêtes à cornes. Et bon, c'était, voilà, c'était, ça m'a fait sourire cette semaine quand j'ai appris ça. Ils votent, est-ce qu'on va subventionner les bêtes à cornes? Voilà, on veut qu'il y ait des cornes, mais si on veut qu'il y ait des cornes, ça coûte plus cher. Voilà, et tout le monde va voter pour ça aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Verset 33 nous parle d'un homme qui a fait un trou, qui a creusé un trou, une citerne, un fossé, et que quelqu'un tombe dedans, ou un animal tombe dedans. Alors là, on voit déjà que Dieu avait pensé à des choses. Il avait pensé que à des situations que peut-être nous, on n'aurait pas pensé, et il nous montre que la vie est difficile et qu'on est tordu et qu'il va se passer des choses, des drames. Et si la loi nous montre que la négligence, c'est toujours un manque d'amour. On doit toujours payer pour la conséquence de ses actes, que ce soit par négligence ou parce qu'on a voulu directement faire du mal. Et aussi, on a un passage connu, versets 23, 24, 25, Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ce qu'on appelle la loi du talion. C'est un mot qui vient du latin, qui veut dire pareil, même. Pareil, même. Et souvent, on voit cette loi comme quelque chose de barbare. En fait, c'est le contraire. Cette loi, elle devait mettre des limites aux répercussions qu'il y aurait dans un litige. Cette loi, elle disait, il n'y aura de rétribution que dans un cadre légal. Et en fait, dans une société où l'honneur prévalait et où la famille devait venger l'honneur de celui qui était attaqué, la loi du talion mettait des limites en disant, il n'y aura pas d'escalade. Sinon, c'est un bras pour un doigt, l'épaule pour un bras, une jambe, et après, c'est la tête. La loi du talion, elle dit non. À chaque peine, à chaque crime, à chaque litige, une peine qui correspond. Autre chose qu'on voit, c'est que le talion, donc le fait de rétribuer œil pour œil, dent pour dent, c'était pas la peine plancher, mais la peine plafond. C'était le maximum qu'on pouvait demander. Et en fait, on voit que dans bien des cas, quand le crime ne nécessitait pas la mort, le talion, c'était ce qu'on pouvait exiger au maximum, mais qu'on peut aussi demander des dédommagements. Et on le voit dans le passage, que si on blesse l'œil d'un esclave ou si on lui casse la dent, alors on doit le renvoyer libre. Et on voit que les gens pouvaient s'arranger s'ils préféraient une compensation en argent. Et on voit ce principe qu'on est responsable des dommages que l'on a causés, mais aussi des dommages que l'on aurait pu éviter. On est responsable de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. Et on voit que la loi cherche le bien de l'autre. La loi nous pousse à aimer nos ennemis et à nous demander, est-ce que dans cette situation, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce que j'ai mis en place ne blesse pas l'autre ? Ne l'atteigne pas, ne lui fasse pas du mal. C'est pas juste, ah, j'ai pas le temps, on verra bien, on se débrouillera. Il y a pas d'enfant dans le quartier qui va tomber dans la piscine. Enfin, bientôt, il pourra tomber, il fera du patin à glace dessus. Mais la question, c'est, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il est en mon pouvoir de faire pour que les autres ne subissent pas les conséquences de ce que je viens de mettre en place. Partie suivante. Les vols et les pertes, à partir du verset 37. Et ça, c'est une application directe du commandement, du huitième commandement. Encore une fois, la loi encadre les vols pour qu'on puisse vivre d'une manière juste dans un monde tordu. On voit que le vol n'était pas puni de meurtre, mais on voit que le voleur devait payer proportionnellement à ce qu'il avait volé. On voit au verset 2 du chapitre 22. Non, c'est pas le verset 2. Ouais, alors le 22.2, il dit autre chose. Le 22.2, il dit, si il y a un voleur qui survient pendant la nuit et qu'on le tue, on n'est pas coupable de meurtre. Par contre, s'il y a un voleur qui vient pendant le jour et qu'on le voit et qu'on le tue, là, on est coupable de meurtre. Non, je cherche un passage, en fait, où il dit que si le voleur ne peut pas payer, il sera justement réduit, enfin, il sera vendu, voilà, ok. Si, c'est ça en fait. Il donnera une compensation. S'il n'a rien pour payer, il sera vendu pour son vol. Donc on voit que la servitude, l'esclavage pouvait être la conséquence d'un délit où le voleur ne pouvait pas payer. Et dans la deuxième partie du passage, on a ces histoires d'incendie où pour une raison ou pour une autre, on devait brûler son champ, que le feu s'étend au champ du voisin, ou alors que par négligence, on laisse nos bêtes brouter dans le champ du voisin. Alors, dans ce cas-là, on doit aussi restituer ou dédommager les torts qu'on aura causés. Encore une fois, on voit qu'on est responsable toujours de ce qui arrive, même par négligence. Et dans le Nouveau Testament, on parle aussi de vol. Et en Éphésiens, au chapitre 4, Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille dur de ses mains pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Verset 28. Et on voit que pour Jésus, aimer son prochain, c'est pas juste respecter ce qu'il a, mais c'est lui donner ce qu'il n'a pas. Et on voit que l'évangile ne nous appelle pas à un repli sur nous-mêmes, mais à un amour qui se donne et qui donne. L'évangile, c'est pas chacun chez soi et on sera tranquille. L'évangile prend en compte le bien de l'autre et va plus loin que ne pas prendre ce qui lui appartient. C'est parfois lui donner ce qui nous appartient. Parce qu'on sait que, ultimement, ça appartient à Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je couvre pas, il y a beaucoup de lois entre les deux. Je vous laisserai lire le texte. Si vous ne les comprenez pas, on pourra en parler plus tard. La partie d'après, à partir du verset 15. Verset 15 à 19, la débauche et l'idolâtrie. Il y a quatre situations qui s'enchaînent. Et dans la première situation, un homme séduit une femme non mariée, ils ne sont pas fiancés, ils couchent ensemble. Ici, il n'est pas question de viol. Ce serait plutôt comme une fin de soirée qui tourne mal à l'heure actuelle. Deux choix. Soit il paye la dot et il la prend pour femme. Soit le père refuse de la lui donner, verset 16. Sous-entendu aussi, soit le père voit que l'homme ne prendra pas soin de sa fille. Soit la fille dit à son père, je veux pas me marier avec lui. L'homme doit quand même payer la dot à la femme. Et on voit que, encore une fois, l'acte sexuel ne constitue pas le mariage. Il fait partie du mariage. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est avec une femme qu'ils sont mariés. Deux, on voit que l'homme pouvait quand même régulariser sa situation. Et que dans un monde tordu, Dieu, le but de Dieu, c'est que devant lui, on fasse ce qu'il veut. Et Dieu nous donne toujours la possibilité de faire ce qui est bien. Il n'y a pas de fatalité à donner comme réponse au péché le péché. L'homme pouvait régulariser sa situation. Deuxième chose, la dot est payée pour protéger la femme, dans tous les cas. Difficile de se remarier à l'époque quand on n'est plus vierge. Et donc la dot que donnait cet homme-là était un moyen pour la femme de s'assurer de sa subsistance. Protection de la femme aussi pour pas ajouter un péché plus grand à celui qu'elle vient de commettre. Pour pas lui faire payer des conséquences encore plus grandes que ce qu'elle vient de vivre. Encore une fois, la Bible parle et Dieu, dans sa parole, s'abaisse au niveau des humains et nous montre que la vie est compliquée, que l'homme est tordu. Il dit, quand il dit si ou quand, il ne dit pas que c'est bien. Par ailleurs, on sait que c'est mal. Parce que la sexualité est toujours réservée au cadre du mariage. Donc la Bible ne dit jamais que le péché c'est bien. Mais la grâce nous dit toujours qu'on peut se relever du péché et qu'on peut commencer aujourd'hui à obéir à Dieu. Verset 17. Suivant les versions, 17 ou 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible condamne fermement les pratiques occultes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de sorcière. Ça nous fait penser plutôt à un Disney quand on parle de sorcière. Par contre, aujourd'hui, on va parler facilement de barreurs, de coupeurs de feu, de magnétiseurs. La Bible est fermement opposée à toutes les pratiques occultes. Dieu est souverain dans tout ce qui nous arrive. Et Dieu, dans sa mystérieuse volonté, peut vouloir de nous laisser souffrir pour un temps. Et Dieu nous dit, c'est moi qui choisis ce qui t'arrive. C'est pas toi qui choisis ce qui t'arrive. Et la Bible prend en compte la souffrance, prend en compte la douleur, prend en compte la difficulté de vivre dans ce monde tordu, la difficulté de vivre quand notre corps, quand notre esprit nous fait mal. Mais la Bible interdit fermement que l'on ait recours à des pratiques occultes pour se débarrasser de ce que Dieu nous donne. Parfois, Dieu nous laisse souffrir et il se glorifie dans cette souffrance. Et à ceux qui souffrent, il dit « Patience, un jour vous serez libérés. » À ceux qui souffrent, il dit « Persévérance, parce que je suis à vos côtés. » Et à ceux qui souffrent, il dit « Vous êtes appelés à la sainteté. » Et parfois, il vaut mieux souffrir pour vivre la sainteté à laquelle Dieu nous appelle plutôt que désobéir à Dieu. Obéir à Dieu est toujours plus important que ne pas souffrir. Verset 18, la bestialité. Peut-être le verset le plus dur. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Dieu est en train de dire, je sais que vous êtes tellement pécheurs que cette chose tellement ignoble peut arriver. Et on voit avec le verset suivant, verset 19, que l'idolâtre, il est condamné à l'anathème, c'est-à-dire à la destruction. Celui qui renie Dieu, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux sera puni de mort. l'application du premier commandement. Et on voit dans cette combinaison que l'idolâtrie dans la Bible accompagne toujours la débauche. Et dans Romains 1, on voit que parce que les hommes n'ont pas adoré Dieu, parce que les hommes ont choisi d'adorer la créature plutôt que le Créateur, alors ils sont livrés à leurs passions, ces passions de débauche. On voit aussi dans la Bible que la saine doctrine va toujours avec une saine piété. Et que des enseignants idolâtres, des enseignants qui enseignaient autre chose que la parole de Dieu, ont toujours mené le peuple dans la débauche. Et on voit dans ces lois à la fois la sainteté de Dieu et la gravité de renverser l'ordre qu'il a créé. Et dans le Deutéronome, à chaque fois qu'il y a des peines qui requièrent la mort, Dieu appelle le peuple à ôter le mal du milieu de vous, en mettant à mort ceux qui font le mal. Et dans 1 Corinthiens 5, dans la situation où un homme couche avec sa belle-mère, dans l'église, Paul emploie la même expression, tu ôteras le mal du milieu de toi. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas en le mettant à mort, c'est en le mettant hors de l'église. Pourquoi ? Comme dans l'Ancien Testament, pour préserver la sainteté de l'assemblée, un peu de levain fait lever toute la pâte, et deux, pour préserver le témoignage de l'église. Quand on laisse quelqu'un dans l'église faire des choses tellement énormes, en fait, on est en train de dire à l'église, quand on est chrétien, c'est comme ça qu'on vit. Notre manière de vivre est toujours un témoignage et est toujours en train de dire à ceux qui nous entourent, voilà comment Dieu veut que je vive. Et dans Romains 6, Paul aussi nous dit que notre manière de vivre témoigne de notre délivrance. Et aussi dans l'Exode, on a vu que la manière de vivre du peuple de Dieu doit refléter la grâce, la bonté, la puissance de Dieu qui vient de le délivrer d'Égypte. Notre obéissance à Dieu témoigne de la grâce de Dieu. Quelle image nos voisins ont de Dieu quand on laisse faire n'importe quoi dans l'Église. Le Nouveau Testament, de la même manière qu'ici, encadre spécifiquement la manière dont on doit gérer le péché dans l'Église. On ne doit pas inventer, il y a un processus qui se fait. Le processus vise toujours la sainteté de l'Église, la sainteté de celui dont il est question, et la grâce. La discipline dans l'Église vise toujours le rétablissement. Mais quand le rétablissement est refusé, quand la personne refuse d'arrêter de faire ce qu'elle fait, alors l'Église doit la mettre dehors pour dire à ceux de l'Église et pour dire au monde, en fait, cette personne-là, elle ne représente pas l'Église. Et quand vous la regardez vivre, vous n'êtes pas en train de voir l'Église en œuvre. Vous n'êtes pas en train de voir le reflet du caractère de Dieu. Partie d'après, les pauvres et les ennemis. Dans cette partie, à partir du verset 20 du chapitre 22, Dieu parle des immigrés, des veuves, des orphelins, des pauvres. On voit que Dieu se soucie de ceux qui sont rejetés par la société. Dieu se soucie de ceux qui sont rejetés par la société. On voit aussi que la partie est encadrée par le même verset, ou la même idée. Verset 20 du chapitre 22 et 23-9. Tu n'exploiteras pas l'immigrant ou l'étranger, et tu ne l'opprimeras pas. Pourquoi ? Car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Le peuple était parti avec des étrangers, on le voit. Quand il part, des étrangers viennent avec eux. Et Dieu dit au peuple, vous devez bien traiter les étrangers, parce que rappelez-vous la manière dont vous avez été maltraité quand vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Et ici, Dieu ne nous donne pas une loi sur l'immigration. Mais par contre, il nous dit quelle devrait être notre attitude de cœur. Peut-être qu'on ne comprend pas assez, on ne comprend pas en compte suffisamment la situation des étrangers, des migrants, parce qu'on pense que notre terre est cette maison, que cette terre est notre maison. Peut-être qu'on a oublié que nous aussi on est de passage. Peut-être qu'on a oublié que nous aussi on est étrangers et voyageurs. On est tous des migrants sur terre. Quelle application pour aujourd'hui ? Que le racisme, c'est un cancer dans l'Église. Le racisme, c'est un cancer dans l'Église. C'est l'inverse de la grâce. C'est l'inverse du ministère de réconciliation que Dieu nous donne. Dans Éphésiens, il dit aux chrétiens d'origine non-juive, il dit « Rappelez-vous quand vous étiez étrangers et interdits de citer. Vous étiez étrangers à l'Alliance. Mais Jésus, par son sacrifice, a brisé le mur de séparation. Il vous a réconciliés. Le racisme, c'est l'inverse du ministère de réconciliation que Dieu nous confie. C'est l'inverse de l'Évangile. On ne devrait tolérer aucune forme de racisme dans l'Église. Jamais. Et ici encore, on voit que Dieu donne des protections légales et se soucie des femmes, des pauvres, de ceux qui sont rejetés, des immigrés, ceux qui valaient moins que rien pour les autres peuples. Dieu se soucie de ceux que la société rejette. Mais un peu plus tard, on voit que si Dieu fait attention aux pauvres, c'est parce qu'il sait qu'ils sont vulnérables et qu'on va facilement abuser d'eux à cause de leur position. Mais il dit, la vraie justice, c'est traiter chacun équitablement. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu, ni d'un côté ni de l'autre. Et il dit, verset 3 du chapitre 23, « Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. » J'aime bien un commentateur qui dit à propos de ce texte, « Le pauvre n'a pas toujours raison et le riche n'a pas toujours tort. » Le pauvre n'a pas toujours raison et le riche n'a pas toujours tort. On doit faire attention à ceux dont les droits sont facilement bafoués, mais on ne doit pas leur donner plus de droits qu'aux autres. Encore une fois, l'équité et la justice. Versets 4 et 5, la loi nous parle de si quelque chose arrive à son ennemi. Si il t'arrive de voir le bœuf de ton ennemi ou sa voiture en panne, tu iras l'aider. Alors la voiture, c'est moi qui l'ajoute, vous avez compris. Lorsque tu verras la voiture de ton ennemi avec un pneu crevé, tu iras l'aider à le changer. La tolérance qui est érigée en vertu, peut-être la plus grande aujourd'hui dans notre société, la tolérance mène à l'indifférence. Mais l'amour mène à l'action. C'est ce que nous dit la loi, c'est ce que nous dit Jésus. Et Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, on l'a vu la semaine dernière. Aimons nos ennemis. Comment ? En leur faisant du bien. Comment ? En priant pour eux. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon envers tous. Parce que alors que nous étions tous ennemis, Christ est mort pour nous. Aimer ceux qui nous aiment, c'est faire comme tout le monde. aimer nos ennemis, c'est ressembler à Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous ne dites pas bonjour le dimanche matin. Un peu comme les aimants, et quand on essaie de les rapprocher, ils s'esquivent. Peut-être que la raison pour laquelle vous asseyez dans cette rangée, c'est pas parce que vous y voyez mieux, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'assied dans celle-là. Et la personne à laquelle vous êtes en train de penser, là, maintenant, c'est celle-là à qui vous devez faire du bien. C'est pour celle-là que Dieu veut que vous priez. C'est celle-là que Dieu vous demande d'aimer. En parole et en acte. J'aime cette phrase de Tim Keller qui dit « N'attends pas de ressentir de l'amour pour ton prochain. Agis comme si c'était le cas. » N'attends pas de ressentir de l'amour pour celui qui t'irrite. Fais-lui du bien. Prie pour lui. Va le visiter. Si on attend d'avoir envie d'aimer l'autre, il y a de fortes chances que ça n'arrivera jamais. Dieu ne nous demande pas d'avoir envie. Dieu nous demande de lui obéir. Dernière partie, à partir du verset 10 du chapitre 23. Le repos et les fêtes. On voit que le livre de l'Alliance commence avec le culte, ce qu'on a dit tout à l'heure, et on voit qu'il finit avec le repos et les fêtes. Et dans cette partie, on voit que la vie du peuple doit être réglée par le rythme de Dieu. Encore une fois, le calendrier, c'est Dieu qui le fixe. On voit les versets 10 et 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, tu en récolteras le produit. La 7e, tu donneras du répit, tu la laisseras tranquille. Les pauvres de ton peuple mangeront, les animaux sauvages mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et ton olivier. Le rythme de Dieu est pour le bien des autres. 6 ans de culture, 1 an de repos. Verset 12, un écho au 4e commandement. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, le 7e, tu feras sabbat, afin que ton bœuf, ton âne puisse se reposer, le fils de ta servante et l'immigré puissent reprendre haleine. 6 jours de travail et 1 jour de repos pour tout le monde. Pour les hommes, les servants, les immigrés, les bêtes, les maîtres, tout le monde. En France, on voudrait faire l'inverse. 1 jour de travail et 6 jours de repos. Des fois, ça marche en mai. Et ce repos, il nous rappelle que tout est dans les mains de Dieu. Et ne pas vouloir se reposer, et ça fait écho chez moi, ne pas vouloir se reposer, c'est oublier qu'on est fait à l'image de Dieu. Et en fait, en se reposant 1 jour par semaine, on montre à tous ceux qui nous entourent qu'on veut vivre de la manière que Dieu nous a créés. Ne pas vouloir se reposer, c'est croire que le monde tourne beaucoup moins bien sans nous. Et en fait, à chaque fois qu'on se lève le matin, on se dit « Ah non, ça marche. Ça va. Je peux me reposer, je peux m'arrêter. Tout ne va pas s'écrouler. » Et dans un monde en mouvement, le repos, c'est un peu comme le silence au milieu du bruit. Se reposer, c'est montrer que Dieu prend soin de nous. Et c'est se rappeler que Christ a tout accompli. Et on voit dans la suite du récit que Dieu appelle le pays promis le pays de repos. Le pays où enfin le peuple allait pouvoir se reposer. N'était plus en servitude pour le pharaon mauvais, mais allait servir dans la paix, la joie et la sécurité, le Dieu bon qui les avait délivrés. Et en Christ, en Hébreux 4, on le lit, nous sommes déjà entrés dans ce pays de repos. On est déjà dans le repos de Dieu en Christ, mais pas encore totalement. Comme le peuple, on est encore en chemin. On est étrangers et voyageurs sur la terre, et on attend le repos dans le pays promis, la nouvelle création. On attend le repos céleste. Et un jour, on le goûtera. Et si vous êtes fatigué ce matin, si vous êtes chargé par la vie, Jésus promet du repos à ceux qui viennent se décharger sur lui. Aujourd'hui, déjà. Mais à cause du péché qui nous écrase, nous pouvons aussi avoir l'espérance qu'un jour, nous vivrons un repos total, complet, avec Dieu, dans sa présence. Le passage se termine avec trois fêtes que le peuple devait célébrer. La fête des pains sans levain, qui célèbre la délivrance de Dieu, versets 14 et 15. La fête de la moisson et des récoltes, qui célèbre la providence de Dieu. Dieu nous a délivrés et maintenant Dieu prend soin de nous. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste quand Dieu nous fait sortir du pays de la servitude et de l'esclavage. Et pour nous, la grâce de Dieu, ce n'est pas juste quand Dieu nous fait sortir du péché, de l'esclavage, la servitude du péché. Mais la grâce de Dieu, c'est tous les jours, jour après jour, un jour à la fois, quand Dieu prend soin de nous dans sa providence. Dieu continue de nous faire du bien. Et ces fêtes célèbrent la bonté, la grâce de Dieu. Dans Exode 4, Dieu s'adresse à Moïse et il dit « Tu diras au Pharaon, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. » Au chapitre 5, verset 1, Moïse, Aaron vont auprès du Pharaon et il leur dit, Dieu a dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » L'obéissance est joyeuse. Ici, Dieu nous dit, l'obéissance, c'est une fête. Le dimanche, c'est une fête. Le dimanche, dimanche après dimanche, ensemble, le peuple de Dieu veut se rassembler pour célébrer la grâce et la grandeur de Dieu. C'est une fête. Et le repos que nous vivons aujourd'hui, les célébrations que nous vivons aujourd'hui, c'est une préfiguration, elles annoncent la vraie fête, le vrai repos qu'on aura un jour au ciel. Un jour, nous serons avec Dieu. Le repos sera complet et la joie ne s'arrêtera jamais. Le repos sera complet et la joie ne s'arrêtera jamais. Pour conclure, on voit que le livre de l'Alliance nous montre que Dieu connaît les difficultés de la vie. Ce sont des règles qui montrent que Dieu sait que nous sommes tordus, sait que nous sommes pécheurs et sait que la vie est difficile ici-bas. Mais parce que Christ a obéi parfaitement, alors, en Christ, nous pouvons obéir, nous aussi, à Dieu. Et refléter par notre obéissance sa sainteté, sa justice et sa bonté. Obéir à la parole de Dieu, c'est refléter le caractère de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est refléter la sainteté, la justice et la bonté de Dieu. Je vais prier. Pour conclure, Et cette prière, je l'ai prise du psaume 119, à partir du verset 33. Prions. Instruis-nous, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que nous les gardions jusqu'à la fin. Donne-nous l'intelligence pour que nous gardions ta loi et que nous l'observions de tout notre cœur. Conduis-nous dans les sentiers de tes commandements, car nous y prenons plaisir. Incline notre cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Seigneur, fais-nous vivre dans ta voie. Accomplis envers nous, tes serviteurs, ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Détourne de nous le déshonneur que nous redoutons, car tes ordonnances sont bonnes. Voici que nous soupirons après tes statuts. Seigneur, fais-nous vivre dans ta justice. Amen.